Content d'être avec vous, chers amis. Je m'appelle Benjamin, j'ai la joie de servir ici en tant que pasteur adjoint dans cette église aux côtés de Steve. Et c'est une joie d'être tous ensemble pour ce dimanche un peu spécial, n'est-ce pas? C'est un peu un dimanche de fête pour notre église avec 5 baptêmes qu'on a et on se réjouit pour cela de pouvoir vivre tout cela ensemble. Et d'un autre côté, c'est aussi un dimanche un peu normal où on continue à faire ce qu'on fait tous les dimanches, ce qu'une église veut faire. Comme vous l'avez vu jusqu'ici, de lire la Bible, de prier, de chanter et d'avoir maintenant un temps où on se met à l'écoute de l'enseignement de la Bible. Et les dernières semaines, comme on l'a dit dans notre église, on a étudié le livre de la Bible qui s'appelle Ruth, l'histoire de Ruth. On vient de lire le dernier chapitre de cette histoire et donc on va terminer cela ensemble. Et l'un des thèmes auxquels nous amène ce livre de Ruth, c'est le thème du repos. Et même si vous ne connaissez rien à l'histoire de Ruth, j'imagine que vous connaissez ça, le repos. Ou en tout cas, on aimerait le connaître un peu plus, n'est-ce pas? Le repos. On connaît tous le sentiment, après une journée bien chargée, une journée bien remplie, de pouvoir reposer sa tête sur l'oreiller et de pouvoir souffler un peu. La liste de tâches de la journée est terminée, le chaos de la journée est fini, on n'a pas à s'inquiéter du lendemain, on pose sa tête sur l'oreiller. Et là, c'est le repos. C'est peut-être ce qu'on attend pour certains après une journée chargée aujourd'hui. Beaucoup sont au travail, peut-être même depuis tôt ce matin. On attend enfin de pouvoir poser sa tête sur l'oreiller. Mais dans notre histoire du livre de Ruth, le repos, c'est surtout ce que l'on veut pour Ruth et Naomi, les deux personnages principaux de cette histoire. Naomi ou Noémie, selon les versions. Leur vie, la vie de Ruth et de Naomi, c'est une suite de hauts et de bas. Et on attend le moment où elles trouveront du repos, où elles trouveront le vrai repos. On attend le moment où on pourra enfin se dire « tout est bien qui finit bien ». Et on arrive aujourd'hui à la scène finale de cette histoire où on va parler de rédemption et de repos pour Ruth et Naomi. Et on va voir que ce qu'elles ont vécu, ce que cette histoire vraie raconte, pointe également vers nous et la rédemption et le repos qu'on peut avoir. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois, vous êtes en visite, ou alors vous venez pour les baptêmes, vous arrivez en plein milieu de ce récit. Bah, même si vous ne comprenez pas tous les détails, j'espère que vous pourrez au moins comprendre l'essentiel et comment ce que l'on va voir se rattache au cœur même de la foi chrétienne. Il y a deux choses qu'on va observer dans notre texte, et vous avez le plan dans le feuillet si vous voulez suivre. Deux grandes leçons pour nous à partir de ce texte. La première, c'est un rédempteur qui paye le prix. Notre premier point ce matin, un rédempteur qui paye le prix. Si vous étiez là les dernières semaines, vous avez pu observer le début d'une belle histoire d'amour, en quelque sorte. On a Boaz, ou Boaz, là encore ça dépend des versions, moi je dis souvent Boaz, c'est comme ça que j'ai grandi en l'appelant Boaz, donc même si la Bible Colombe ici dit Boaz, je continue à l'appeler Boaz. Mais on a donc d'un côté le riche Boaz, qui semble prêt à épouser Ruth, la pauvre veuve Moabite. On se dit, mais c'est trop beau pour être vrai, et on voudrait que ça se termine bien. On a envie que ce livre termine comme une belle scène d'un film. Ah, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est ça qu'on espère un peu pour eux. Mais on ne doit pas oublier que derrière cette belle histoire d'amour, il y a quelque chose de bien plus sombre. Il est question de survie. Il est question de survie. Comme on l'a dit, il est question de recherche de repos. Pour Naomi ou Noémie, la belle-mère de Ruth, et pour Ruth elle-même, bah, elles n'ont plus rien. Aucun travail, aucune réserve en banque, pas de sécurité sociale à l'époque, pas de CPAS, pas de chômage. Elles n'ont rien pour survivre et elles ont besoin que quelqu'un intervienne pour qu'elles puissent survivre physiquement. Laissées à eux-mêmes, ces deux femmes sont sur le chemin de la mort. Et en additionnant différentes données de ce livre, on comprend que l'espoir pour ces deux femmes se trouve probablement dans celui qu'on appelait à l'époque le Rédempteur, ou comme on le voit ici à plusieurs reprises, celui qui a le droit de rachat. C'était quelqu'un de la famille, le plus proche parent qui était en vie, qui pouvait intervenir pour aider un proche en difficulté. Il avait la possibilité d'assurer le bien-être de la famille, et en particulier des veuves, après un décès. Et donc c'est pour ça que dans ce chapitre, il est question, on le voit, de racheter un champ. Au verset 3, une pièce de terre. Bah, à l'époque, les terrains ne se vendaient pas sur ImmoWeb, ça n'existait pas encore à l'époque, mais les terrains appartenaient à la famille. Quelqu'un d'autre pouvait éventuellement l'acheter, mais pas pour devenir propriétaire du champ, simplement pour l'utiliser et en tirer les bénéfices, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'usufruit. Mais le terrain appartenait toujours à la famille, à cette famille. Et les membres de cette famille pouvaient racheter le champ pour faire revenir les bénéfices dans la famille. Et donc c'est de ça dont Naomi a besoin. Son mari, Elimelech, on l'apprend là encore verset 3, avait un champ. Mais elle ne peut pas profiter des bénéfices de ce champ. Donc elle a besoin que quelqu'un de la famille d'Elimelech le rachète, que le Rédempteur exerce son droit de rachat. Quelqu'un qui a assez d'argent pour le faire. Naomi, elle n'a rien. Et quelqu'un qui est qualifié pour le faire. Ça doit être un proche d'Elimelech. Et il semblerait que ce rôle de Rédempteur, ça soit aussi, on voit au verset 5, de maintenir le nom du défunt sur son héritage. Le nom se transmet de génération en génération, mais s'il n'y a plus de descendants, le nom disparaît. Et dans le cas d'Elimelech, il n'a aucun descendant. Son nom va être perdu, effacé. Et il faut comprendre ce que ça voulait dire pour l'époque. Ce n'est pas juste « Oh non, non, j'aimais vraiment bien mon nom de famille et il va disparaître, je ne veux pas qu'il disparaisse ». Non, à l'époque, perdre son nom, n'avoir aucun descendant qui perde son nom, qui porte son nom, c'était un signe de malédiction grave. C'était la pire des choses qui puisse arriver. Et donc, ce proche parent, ce rédempteur, il pouvait prendre la veuve pour femme, non seulement pour prendre soin d'elle, mais aussi pour assurer la lignée familiale. Donc il faut un rédempteur, non seulement pour racheter le champ, non seulement pour prendre soin de Ruth, mais aussi pour assurer la lignée familiale d'Elimelech. Alors peut-être que vous n'avez rien compris à tout ça, surtout si vous êtes là ici pour la première fois. Vous vous dites, mais c'est quoi toute cette histoire? Si vous n'avez rien compris à tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre tous les détails de ce qui est en arrière-plan de ce chapitre, la loi du champ, du mariage, etc. C'est beaucoup de choses qui sont loin de ce que l'on vit aujourd'hui. Mais si vous n'avez rien compris, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Le seul espoir pour Naomi et pour Ruth se trouve dans un rédempteur, dans quelqu'un de la famille qui exerce ce droit de rachat, qui intervient pour elles. C'est ça leur seul espoir de survie. S'il n'y a pas de rédempteur, il n'y a probablement pas de survie pour Ruth et pour Naomi. Et on sait depuis le chapitre 2 que Boaz, ou Boaz, lui, il fait partie de la famille. Il est un potentiel rédempteur. On sait aussi que Boaz, il est bien disposé envers Ruth. Il est quelqu'un de bienveillant. Et on a même appris qu'il est question d'un potentiel mariage entre Ruth et Boaz. Donc on a de l'espoir. Non seulement Naomi et Ruth vont peut-être pouvoir survivre, mais peut-être qu'on aura aussi droit à notre belle histoire d'amour qui termine bien. Mais la semaine dernière, on a terminé en apprenant que Boaz n'est pas le seul rédempteur. Il y a quelqu'un qui fait aussi partie de la famille d'Elimelech et qui est en fait plus proche de lui, qui est avant lui sur la liste d'attente, on pourrait dire. Et si lui veut jouer ce rôle de rédempteur, exercer son droit de rachat, alors c'est raté pour notre belle histoire d'amour. Donc on est censé, en commençant ce chapitre 4, ressentir un peu de suspense et se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Comment cette histoire va se terminer? Voilà ce qui se passe. On le voit au début du chapitre 4, Boaz monte à la porte de la ville, là où on gérait les affaires, là où tout le monde devait passer pour aller au travail. Et Boaz y va pour essayer de trouver cette autre personne de la famille, cet autre rédempteur qui a le droit de rachat avant lui. Et voilà ce que le verset 1 nous dit. Boaz était monté à la porte et s'y était assis. Or, voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Aussitôt que Boaz arrive, comme par hasard, celui qui cherchait passe par là. Comme par hasard, on y reviendra. Alors, on ne connaît pas le nom de cet autre rédempteur, il est juste appelé Untel, donc on va l'appeler Monsieur Untel. Monsieur Untel, il est là, et Boaz prend les témoins pour gérer cette affaire de la bonne manière. Et il met le deal sur la table. Il dit, mais c'est toi, Monsieur Untel, qui a droit de rachat sur ce champ. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Et si tu ne veux pas, dis-le-moi, parce que sous-entendu, moi, je suis intéressé de le faire. Et puis là, on a une petite surprise. À la fin du verset 4, qu'est-ce que Monsieur Untel dit? C'est moi qui rachèterai. Et on a envie de lui dire, ah mais non, c'est pas ça que tu devais dire. T'as pas bien lu ton scénario, là, le script. Tu devais dire, non, non, Boaz, moi je ne suis pas intéressé, vas-y toi, fais-le. Mais là on se dit, non, c'est fichu pour cette belle histoire d'amour, pour ce qu'on attendait depuis le début de ce livre. Alors si on y pense, c'est assez normal que M. Untel veuille racheter ce champ. C'est une affaire assez profitable au final. Pour pas grand-chose, il achète un champ qui va lui rapporter beaucoup. Et vu que Naomi n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'héritier qui risque de récupérer ce champ. Donc tous les bénéfices seront pour lui. Point de vue business, c'est une bonne affaire. Mais ensuite, Boaz explique les implications. Il ne s'agit pas juste du champ, mais il s'agit aussi de Ruth. Ce n'est pas qu'il est question de racheter Ruth pour de l'argent, non. Mais il est question, là encore, comme on l'a dit, de maintenir le nom du défunt sur son héritage. Comme on l'a dit, de la prendre pour épouse, non seulement pour prendre soin d'elle, mais aussi pour assurer la lignée familiale. Le premier enfant qui naîtrait de cette union, ce serait à la fois le fils de ce rédempteur, mais aussi le fils de Mahlon, le mari décédé de Ruth. Et là, tout d'un coup, pour M. Untel, l'affaire devient beaucoup moins rentable. S'il marie Ruth et qu'ils ont un enfant, ce serait cet enfant, l'héritier le plus proche d'Elimelech, et donc il va perdre son champ. Et non seulement il va perdre l'argent qu'il aura investi, mais aussi il va devoir dépenser pas mal d'argent pour prendre soin de Ruth et pour prendre soin de Naomi. Et donc il dit, ah non, non, cette affaire, c'est pas pour moi au final, vas-y toi, Boaz. Donc ce que l'on a ici, c'est un rédempteur, mais un rédempteur qui n'est pas prêt à payer le prix. Et dans le sens, on ne doit pas trop vite lui jeter des pierres. Il n'a pas tort, c'est pas du tout une affaire rentable. Il n'y a pas grand-chose d'avantageux dans cette histoire. Et comprendre ça, ça nous aide à comprendre en quoi l'attitude de Boaz est extraordinaire. Parce que Boaz, comme l'histoire le montre, lui, il va racheter. Et on comprend qu'il ne le fait pas pour un gain financier. Il ne le fait pas pour ce qu'il peut y trouver. Non, Boaz va donner tout ce qu'il a de lui-même pour le bien de Ruth et pour le bien de Naomi. Peu importe le coût que ça entraîne. Alors c'est cohérent avec ce qu'on a vu de Boaz depuis le début de ce récit. Il est constamment en train de sacrifier lui-même pour le bien de Ruth. Il le fait de manière généreuse, sans compter, sans chercher à gagner en retour envers une pauvre veuve moabite. Boaz est un rédempteur, un vrai rédempteur, qui est prêt à payer le prix. Ce qu'on a dans ce chapitre, dans ce livre de Ruth, c'est une histoire de rédemption. Et c'est impressionnant de voir le statut de celle qui a été rachetée. Il s'agit de Ruth, la Moabite, et elle est appelée plusieurs fois comme ça dans ce livre, et ici encore dans ce chapitre. On l'a déjà dit dans le passé, dans les précédentes prédications, mais les Moabites, c'était un peuple qui était ennemi du peuple de Dieu. Parce qu'ils étaient ennemis de Dieu. Ils étaient en train d'adorer des idoles loin de Dieu, exclus de la présence de Dieu. C'est là que Ruth était. Et pourtant, on a vu au chapitre 1 que Ruth s'est tournée vers Dieu. Elle a en quelque sorte changé de peuple parce qu'elle a changé de Dieu. Elle s'est tournée vers le seul vrai Dieu. Et on voit ici à quel point Ruth a été acceptée à part entière dans le peuple de Dieu. Versets 11 et 12, après que le contrat a été signé, on pourrait dire concernant le mariage de Boaz et de Ruth, le peuple prononce une bénédiction sur Ruth. Et la prière qui est faite, c'est que Ruth devienne comme Rachel et Léa, celles qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Alors oui, c'est une prière pour que Ruth soit aussi féconde qu'elle, c'est vrai, mais ça montre aussi que Ruth n'est plus exclue, mais qu'elle a été intégrée à part entière dans le peuple de Dieu. Celle qui était rejetée est maintenant acceptée. C'est ça l'attitude de Dieu envers les exclus, envers les rejetés, envers ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui se tournent vers lui. Il est le Dieu bienveillant. Il est le Dieu plein de compassion. Il est le Dieu qui ne regarde pas à notre CV pour nous accepter, pas à notre héritage familial, pas notre statut dans la société, mais le Dieu qui agit en fonction de sa grâce. Le Dieu qui agit en fonction de sa compassion, de son désir de sauver. Et en voyant la situation désespérée de Ruth, on est censé voir notre propre situation désespérée. Parce que nous aussi, on est tous, comme Ruth par nature, étrangers au peuple de Dieu, ennemis de Dieu, exclus de sa présence, sans avenir, sans espoir. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que la foi chrétienne, c'est pas comme un entretien d'embauche. On vient avec son plus bel habit, avec ses accomplissements, pour essayer d'impressionner, pour en mettre plein les yeux, pour mettre en avant sa valeur. Non, la foi chrétienne n'est pas comme ça. La foi chrétienne est plutôt comme la salle d'attente des urgences, où on vient avec notre problème, où on vient avec ce qui ne va pas, où on est face au docteur et on dit « Docteur, ça ne va vraiment pas. » Et voici tout ce qui ne va pas. C'est là que commence la foi chrétienne. On est tous blessés spirituellement, malades, de différentes manières. Et en fait, c'est même plus que ça. On est coupable. On est comme les détenus d'une prison qui ont besoin de reconnaître leur culpabilité. On est coupable devant Dieu. Coupable d'avoir rejeté notre Créateur, de ne pas lui avoir donné la gloire qu'il mérite en tant que Dieu. Et on vient devant Dieu, pas avec nos accomplissements, pas pour essayer de l'impressionner. Non, on vient avec notre péché, avec notre cœur mauvais, pour implorer sa grâce et son pardon. On vient en sachant que le Dieu de la Bible est le Dieu des exclus, le Dieu des rejetés, le Dieu de ceux qui n'y arriveront jamais par eux-mêmes, le Dieu de ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle. C'est envers de telles personnes, comme Ruth, que Dieu manifeste sa compassion pour racheter. Et Dieu, tout comme dans l'histoire de Ruth, rachète avec un rédempteur, au moyen d'un rédempteur qui a payé le prix. Cette histoire est notre histoire. L'histoire de Ruth et de Boaz, c'est un miroir qui nous amène à apprécier davantage la rédemption que nous avons en Jésus. Jésus, lui, il est le rédempteur par excellence, qui a accepté de payer le prix. Il n'a pas juste donné un peu de lui-même, mais Jésus s'est donné lui-même. Regardez ce qu'il est dit par rapport à Jésus dans le Nouveau Testament, après la venue de Jésus. « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Jésus nous a rachetés. Il nous a délivrés, libérés de ce chemin qui mène à la mort éternelle, de cette condamnation éternelle qu'on mérite de l'enfer. Et Jésus l'a fait en payant le prix, en payant par son propre sang, par sa vie, par sa mort sur la croix. Quand Jésus meurt sur la croix dans une souffrance terrible, ce n'est pas juste une belle histoire d'amour, une belle preuve d'amour, mais c'était le seul moyen que quelqu'un paye pour nos péchés, pour notre rédemption devant Dieu. Et Jésus l'a fait à notre place. Il prend le jugement sur lui que l'on mérite, la colère de Dieu que l'on mérite, alors qu'il était innocent. Voilà une rédemption qui coûte. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour ce qu'il pouvait gagner, parce qu'il y avait un avantage financier. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde parce qu'il avait besoin de quelque chose. Non, Dieu l'a fait par pure grâce, comme un don gratuit. C'est ça la vraie rédemption. Celle qui se donne, celle qui coûte, celle qui paye le prix. Et c'est ça que nous avons en Jésus. C'est ça la première chose qu'on apprend dans cette histoire, c'est d'un rédempteur qui paye le prix. La deuxième chose que nous voyons, la deuxième leçon, c'est que nous avons un rédempteur qui donne le repos. Un rédempteur qui donne le repos. Parce qu'au stade où on en est de l'histoire, c'est pas encore tout est bien qui finit bien. Oui, le beau mariage entre Ruth et Boaz va arriver, super, mais il manque encore quelque chose d'essentiel, un enfant. Un héritier. Et on doit à nouveau ressentir un peu de suspense. Surtout qu'on a en tête que Ruth a déjà été mariée avant que son mari ne meure, mariée pendant 10 ans, sans avoir d'enfant. Qu'est-ce qui dit que ça sera différent cette fois-ci? Et puis on lit le verset 13. « Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Dieu intervient. Alors c'est vrai que chaque grossesse est une intervention de Dieu, un cadeau de Dieu, mais on voit ça ici de manière particulière. La bénédiction de Dieu sur cette union. Et ce qui est frappant de voir, c'est qu'une fois que ce bébé est né, les feux des projecteurs se déplacent. C'est plus Ruth et Boaz au centre de l'histoire, mais à partir du verset 14 et jusqu'à la fin, au centre de l'histoire, c'est Naomi, la belle-mère, et ce petit bébé. Les feux des projecteurs se déplacent. Et on a un véritable contraste entre la Naomi du chapitre 1, qu'on voyait au tout début, et la Naomi du chapitre 4, ici, à la fin de l'histoire. À la fin du chapitre 1, Naomi était sans enfant, et c'était impossible même qu'elle ait un fils. Elle avait l'impression d'être maudite, que la main de Dieu était contre elle. Elle était amère. Elle disait être avide. Elle était sans espoir de subsister sur un chemin qui mène à la mort. Mais au chapitre 4, c'est totalement différent. Je lis les versets 14 à 16 de Ruth 4. Les femmes dirent à Noémi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Noémi prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. De manière surprenante, ce bébé qui est né, il n'est pas décrit comme étant le fils de Ruth, même si c'est vrai, mais le fils de Naomi, pour souligner le contraste avec ce qu'on avait au tout début de l'histoire. Maintenant, Naomi est comblée. Elle a un enfant, en quelque sorte, même si c'est son petit-fils. Elle est sous la bénédiction de Dieu. Il est dit au verset 15 que Dieu l'a fait revenir à la vie. Bref, tout est bien qui finit bien. On a une belle scène de cette grand-mère qui porte paisiblement son petit-fils dans les bras. C'est touchant. On a mentionné qu'un des thèmes de ce livre, c'est celui du repos. C'est ce que Naomi veut pour ses belles-filles. On le voit depuis le tout début au chapitre 1, verset 9, qu'elles trouvent le repos alors qu'elles sont sur le chemin de la mort. Et c'est ce qu'on souhaite à Naomi elle-même, depuis le tout début, qu'elle trouve le repos, le vrai repos. Et ici, à la fin de ce livre, il semblerait que Naomi a trouvé le repos. Elle peut enfin poser sa tête sur l'oreiller, après une vie bien mouvementée. Et il semble que c'est la même chose pour Ruth. Tout est bien qui finit bien. Ces deux femmes se sont réfugiées en Dieu, sous ses ailes, et il leur a donné le repos. Mais en ce qui concerne Naomi, c'est intéressant de voir comment cela a eu lieu. Il est aussi question d'un Rédempteur, mais cette fois-ci, ce n'est pas Boaz. Je relis les versets 14 et 15. Les femmes dirent à Noémi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, dont le nom sera célébré en Israël. » Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, ce Rédempteur, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. C'est surprenant que ce Rédempteur, ce n'est pas Boaz, mais c'est le petit bébé qui est né. C'est lui qui semble être la clé de l'histoire, la clé de la résolution. Alors c'est vrai que Ruth semble confier cet enfant à Naomi par amour pour sa belle-mère et donc cet enfant est celui qui pourra pourvoir aux besoins de Naomi dans sa vieillesse, dans son âge avancé, quand cet enfant sera plus grand. Donc dans ce sens-là, il sera un Rédempteur pour Naomi, il lui donnera du repos. Mais il y a plus que ça. Il semble que ce petit bébé a une signification encore plus grande. Et on voit ça avec le verset 17. Quand on apprend son nom et qui il est. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Noémi. » Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. On apprend que ce bébé, Obed, sera le père d'Isaïe et donc le grand-père de David, du grand roi David. Et ici, c'est un peu comme une bombe qui est lancée dans le récit jusqu'ici. Jusqu'ici, ça semblait être une belle histoire, mais une histoire de personnes assez ordinaires. un peu comme si on avait choisi deux personnes au hasard en Israël pour raconter leur histoire. L'histoire de deux pauvres veuves dont la vie termine mieux qu'elle a commencé. Mais ce verset nous montre qu'il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit de la lignée royale, la lignée du grand roi David. C'est de ses ancêtres dont on parle ici, c'est son histoire. C'est un peu comme si vous allez à une brocante, vous voyez un tableau qui est simple, qui est joli, vous dites ça fera l'affaire pour le salon, vous l'achetez pour quelques dizaines d'euros, vous l'installez dans le salon, et puis plus tard vous apprenez que ce tableau date en fait du XVIIe siècle et qu'il vaut des milliers d'euros. Waouh ! Impressionnant, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous imaginez, et c'est un peu ça ici. Ça semble banal à première vue, mais c'est bien plus grand qu'on peut imaginer. Ce verset 17, c'est un peu comme le moment où on apprendrait que ce tableau vaut en fait des milliers d'euros ou des millions d'euros. On voit avec ce verset que depuis le début de ce récit, Dieu est au contrôle. On a mentionné ça à plusieurs reprises, la manière dont la main de Dieu se voit dans cette histoire de Ruth, à l'œuvre dans les coulisses. Comme par hasard, Ruth va glaner dans un champ et c'est le champ de Boaz. Ou alors on l'a vu aujourd'hui, comme par hasard, quand Boaz arrive à la porte de la ville, celui qu'il cherche s'y trouve. Bien sûr, ce n'est pas du hasard, mais c'est l'œuvre de Dieu qui contrôle toute chose. Dieu agit, même dans les coulisses, même quand on ne le remarque pas, pour accomplir son plan. Et quand on reconnaît que Dieu était à l'œuvre dans ce récit, on comprend que ce récit, ce n'est pas simplement Dieu qui pourvoit aux besoins de Ruth et de Naomi, qui leur donne un rédempteur, qui leur donne du repos. Non, c'est plus que ça. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple, en mettant en œuvre la naissance d'Obed, qui sera l'ancêtre du grand roi David. Et là encore, si David est si important que ça, ce n'est pas en raison de David lui-même, mais c'est parce que David pointe lui-même vers un autre roi, vers le Messie, vers le Sauveur que Dieu a promis d'envoyer à son peuple dans l'Ancien Testament, pour le délivrer du péché, le délivrer de la malédiction. Ce Messie, ce Sauveur, il serait un descendant de David. Donc en lisant l'histoire de Ruth et de Naomi, on n'a pas juste l'histoire de deux pauvres veuves inconnues, mais on a l'histoire du Messie. On a Dieu qui accomplit son plan de salut, même au travers de personnes ordinaires. Et on voit aussi ça en s'intéressant au bébé qui est né, à Obed. C'est un simple bébé, mais il semble être une bénédiction à tout le monde. Il semble être la réponse à tous les problèmes. Il assure l'héritage de Élimélec et de Mahlon, mais il est aussi une bénédiction pour Boaz et Ruth, ses parents. Et il est aussi un rédempteur pour Naomi. Et il est aussi celui qui permet à David, le grand roi David, de voir le jour. Donc on a au cœur de la scène un petit bébé qui semble résoudre tous les problèmes. Et ça aussi, ce n'est pas anodin. On entre dans la période de Noël, où en tant que chrétien, on veut célébrer la naissance de Jésus. Et quand on pense à la naissance de Jésus, c'est la même chose. On a au centre de la scène un petit bébé qui va résoudre tous les problèmes, qui va être une bénédiction pour tout le monde. C'est vers lui que Obed pointe. C'est vers lui que Boaz pointe, comme on l'a déjà vu. Vers Jésus, ce petit bébé qui sera rédempteur de son peuple. Celui qui sauvera non pas de la famine et de la pauvreté matérielle, mais qui sauvera du péché et du jugement. Donc cette histoire, elle nous amène à un autre rédempteur. Et elle nous amène aussi à un autre repos. Pas un repos physique, afin de pouvoir survivre un jour de plus, mais un repos plus grand, bien plus complet. Là encore, cette histoire est notre histoire. En voyant la situation désespérée de Naomi, on est censé voir notre propre situation désespérée. Par nature, on est tous comme Naomi, sans espoir, sans repos, privés d'un lieu de repos. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ça ? Alors oui, on cherche tous le repos physique, on est souvent fatigué, on n'a pas assez de sommeil, ou alors on n'a pas un sommeil d'assez bonne qualité, mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'il en est du repos bien plus profond ? Le repos intérieur. Le repos par rapport aux grandes questions de la vie. On sait que les chiffres concernant les dépressions augmentent. On sait que les jeunes sont particulièrement touchés par ça, surtout depuis le Covid. La réalité est face à nous. On n'arrive pas à trouver le repos que l'on poursuit, même en prenant tout ce que le monde nous offre autour de nous. De différentes manières, on est tous dans cette quête d'un lieu de repos. Mais ce livre de Ruth nous amène à réaliser qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner le vrai repos. C'est vers lui que ce livre pointe. C'est vers lui que cette histoire pointe, que toute la Bible pointe. C'est Jésus. Je cite ici les versets qu'on a déjà cités dimanche passé. Matthieu 11, verset 28, voilà ce que Jésus dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ici, Jésus n'est pas en train de promettre quelque chose qui est trop beau pour être vrai, ou en train de promettre quelque chose qu'il ne peut pas offrir. Un peu comme, vous savez, ces pubs sur YouTube qui vous disent « Ah ben, en une semaine, vous pouvez vous enrichir sans rien faire. » On se dit « Ça semble trop beau pour être vrai, et tu promets probablement quelque chose que tu ne peux pas offrir. » Mais Jésus n'est pas comme ça ici. Il promet quelque chose qu'il peut lui offrir. Si Jésus promet le vrai repos, c'est parce qu'il est le seul qui peut le donner. Il n'offre pas du divertissement pour faire oublier le problème, mais il traite le vrai problème à sa racine. Le vrai problème qui fait que l'on ne connaît pas le repos se situe dans notre relation avec Dieu. Le fait qu'on est tous ennemis de Dieu, comme on l'a dit, c'est seulement dans une relation rétablie avec Dieu, avec notre Créateur, qu'on peut trouver le vrai repos. Voilà ce que Augustin, l'un des pères de l'Église, a dit dans ses Confessions. Il dit ceci, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Voilà où se trouve le vrai repos. En celui qui nous a créés, en Dieu. C'est pour ça que c'est en se confiant en Jésus qu'on peut trouver le repos. En se détournant de nos fautes, d'une vie centrée sur nous-mêmes, et en se tournant vers le pardon que Jésus offre. Est-ce que vous connaissez ce repos? Ou est-ce que votre quotidien est marqué par une course effrénée? Une course sans fin vers les plaisirs de ce monde? Une course sans fin pour maintenir notre réputation? Une course sans fin pour assurer notre sécurité? Pour oublier les grandes questions de la vie? Une course sans fin à poursuivre le bonheur qui disparaît si vite? Et si c'était possible d'arrêter de courir et de poser sa tête sur l'oreiller une bonne fois pour toutes? C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Ou est-ce que votre quotidien est marqué par la crainte? La crainte par rapport à l'avenir? La crainte par rapport à la mort? Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait avoir peur de la mort. Et je lui disais, mais t'as raison, tu devrais avoir peur de la mort. On devrait avoir peur de la mort. Parce que si on se présente devant Dieu, notre Créateur qui est saint, tel qu'on est nous-mêmes, il n'y a aucun espoir pour nous. Il n'y a aucun repos possible. C'est impossible. On devrait être terrifié à l'idée de se présenter devant Dieu au jour du jugement sans avoir trouvé refuge en Jésus. Mais en Jésus, on peut trouver le vrai repos. On peut trouver le repos qui dure. On peut trouver le repos que rien ne peut changer, même pas les hauts et les bas de sa vie. On peut avoir le repos de savoir qu'on peut faire face à la mort sans crainte, se présenter devant Dieu sans crainte, parce que Jésus a payé pour nous, parce qu'il nous a rachetés. On peut avoir le repos de savoir que peu importe ce que les autres disent ou pensent de nous, ce que Dieu dit ou pense de nous ne va jamais changer. On peut avoir le repos de savoir que peu importe ce que l'avenir nous réserve, on est dans les mains du Dieu qui n'échoue jamais, du Dieu qui accomplit son plan par sa bonne providence, par sa main invisible dans tout ce que l'on vit. On peut avoir le repos de savoir que rien de ce que l'on traverse n'est en dehors du plan souverain de Dieu, par lequel il nous fait grandir à l'image de son Fils. On peut avoir le repos de savoir que, comme quelqu'un le disait, il n'y a rien de plus qu'on ait à faire pour que Dieu nous aime plus. Il n'y a rien de moins qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime moins. Ça, c'est le vrai repos. C'est ça de pouvoir poser sa tête sur l'oreiller une bonne fois pour toutes, en Jésus. Et c'est ce que ceux qui se font baptiser aujourd'hui ont vécu eux-mêmes. Demandez-leur. En fait, plusieurs ont dit apprécier et ont voulu choisir le chant qu'on va chanter dans un instant au dos de votre livret. Il donne le repos, un chant qui parle de ce repos que l'on a en Jésus. Et s'ils ont voulu choisir ce chant, c'est parce qu'ils ont trouvé en Jésus le repos. Ça ne veut pas dire que leur vie est devenue un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas des hauts et des bas dans leur vie. Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'en ce qui concerne les grandes questions de la vie, ils ont trouvé la réponse. Ils ont pu reposer leur tête sur l'oreiller. Et je suis certain que c'est ce qu'ils voudraient pour chacun de vous aujourd'hui, que vous puissiez poser votre tête sur l'oreiller une bonne fois pour toutes. Alors ce soir, à la fin d'une longue journée chargée, quand vous posez votre tête sur l'oreiller, demandez-vous, est-ce que moi j'ai trouvé ce repos ? Et si ce n'est pas le cas, où est-ce que je peux le trouver ? Je vais lire la première strophe de ce chant pour terminer, et puis je vais prier, et ensuite on chantera directement « Il donne le repos ». Donc je lis la première strophe, je prie, et les musiciens peuvent s'avancer pour qu'on chante juste après « Il donne le repos ». Venez, pauvre esprit affligé, courbé sous le poids de vos péchés. Le tendre Sauveur, loin d'accabler, s'en est déjà chargé. La somme écrasante de vos torts, entière, est effacée par sa mort. Abandonnez-lui ce lourd fardeau. Il donne le repos. Jésus donne le repos. Prions. Notre Dieu, on veut te remercier parce qu'on a pu trouver en Jésus le vrai repos. On te remercie, notre Dieu, parce que plusieurs ici ont pu reposer leur tête sur l'oreiller une bonne fois pour toutes. Merci, notre Dieu, pour le privilège de savoir que notre vie et notre éternité est entre tes mains, non pas sur la base de nos accomplissements religieux, non pas sur la base de ce que l'on vaut, de ce que l'on a fait ou de ce que l'on ferait, mais sur la base de ce que toi, tu as fait en Jésus pour nous racheter. Notre Dieu, aide-nous à apprécier tout à nouveau ces vérités qui sont au cœur de notre foi. On prie cela dans le nom de Jésus. Amen.